Il était une fois un chasseur de serpents qui partit dans les montagnes pour attraper le serpent le plus gros qu'il pouvait au moyen de ses incantations. Il a cherché longtemps dans la montagne, pendant des jours de neige et de gel, et voilà qu'un jour il aperçut un serpent énorme, semblable à un dragon. Mais semblable à un dragon mort, puisqu'il ne bougeait pas. Face à ce monstre, son cœur fut rempli de crainte. Mais en s'approchant, il vit vraiment que la bête ne bougeait pas, et il décida donc de l'attraper, de l'emmener dans la ville de Bagdad, dans l'intention de provoquer l'étonnement de la foule et, évidemment, gagner un peu d'argent. Il était donc à la recherche d'un maigre salaire, et il transportait un dragon énorme, pareil au pilier d'une maison, en disant « J'ai apporté un dragon mort, j'ai souffert mort et passion à le chasser. » En fait, le chasseur de serpents croyait que le serpent était mort. Mais il était bel et bien vivant, et c'est lui qui ne s'en rendait pas compte. Il était gelé par les frimas, il était glacé par la neige, mais il était bien vivant avec l'apparence de la mort. Le chasseur, donc, le tira avec sans peine jusqu'à la ville. Et là, il l'installa pour faire un beau spectacle sur les rives du Tigre. Et une rumeur s'éleva de la cité. Un chasseur de serpents a apporté un dragon énorme. Il a capturé un animal extraordinaire. Des myriades de niais s'assemblèrent, formant un cercle, en foule. Quand le chasseur de serpents se mit à remuer l'étoffe, dont il avait recouvert la bête, les gens tendirent le cou et virent que le dragon qui avait été gelé par le froid intense était en dessous, tenu par des grosses cordes, de grosses étoffes, parce que le chasseur de serpents se disait « quand même, on ne sait jamais ». Pendant le délai de l'attente et des allées venues des gens, le soleil de l'Irak, qui comme chacun sait est très puissant, brilla sur la bête. Le soleil de ce chaud pays le réchauffa. Lui qui était mort, il ressuscita et commença à bouger et à se dérouler. En voyant bouger ce serpent mort, la stupeur des gens s'accrut encore plus. Ils se mirent à crier, à s'enfuir en masse, loin de ses mouvements. Et le dragon se mit à faire éclater ses liens, et à ses cris, les liens de chaque côté se mirent à craquer. Il brisa ses liens, fondit sur les gens. Dragon affreux, rugissant comme un lion. Beaucoup furent tués dans la bousculade. Une centaine de tas furent faits de ceux qui étaient tombés morts. Le chasseur de serpents, lui-même paralysé de peur, s'écria « Qu'ai-je fait là? Qu'ai-je apporté de la montagne et du désert ?» Et ce mouton aveugle éveilla le loup. Sans le vouloir, il alla vers l'ange de la mort. Le dragon ne fit qu'une bouchée du chasseur. Il s'enroula, se fixa sur un pilier, dévora les os de l'homme mangé. Et s'en fut fini de lui. Le dragon, c'est le soi impérieux. Comment pourrait-il mourir? Il n'est que gelé par le chagrin et l'absence de moyens. Ce dragon, sous l'effet de la pauvreté, est un petit ver. Mais un moucheron est transformé en faucon par le pouvoir et la richesse. Garde le dragon dans la neige de la séparation. Prends garde. Ne l'apporte pas au soleil de l'Irak, afin qu'il reste bridé. Tu n'es pour lui qu'une bouchée quand il est relâché. Mets-le échec et mat, et tu échapperas à la mort. Sois sans pitié, il n'est pas un de ceux qui méritent des faveurs. Car lorsque la chaleur du soleil du désir charnel le touche, cette vile chauve-souris se met à battre des ailes. Conduis-le virilement de la guerre au combat. Dieu te récompensera en te donnant accès à sa présence. Espères-tu, sans recourir à la violence, le garder enchaîné dans la tranquillité et la fidélité? Comment ce souhait serait-il exaucé par n'importe quel homme dénué de mérite? Il faut être un Moïse pour être capable de tuer le dragon. Ce récit est tiré de l'œuvre didactique du poète mystique persan du XIIIe siècle, Rumi. Dans cette œuvre, en fait, il raconte des anecdotes, comme celle que je viens de vous raconter, dont il tire toujours des leçons spirituelles. Ici, il le dit clairement lui-même, il nous raconte une histoire dans laquelle il représente le soin impérieux sous les traits d'un serpent-dragon, ou quelque chose qui est un peu entre les deux. Une métaphore tout à fait classique pour représenter le soin impérieux. Alors le point principal du récit, c'est que le soin impérieux ne meurt pas tant que nous sommes dans le corps. On peut croire parfois qu'il se tient tranquille, mais en réalité, il n'est jamais mort. Mais avant de continuer, peut-être une précision sur ce que c'est que ce soin impérieux. Alors le soin impérieux, c'est ce qui est à l'origine des tendances, des pulsions, des désirs les plus puissants de notre psyché. Il s'oppose automatiquement et systématiquement à toute idée ou action éthique ou divine juste, et il raffole de tout ce qui y est contraire. En fait, notre penchant naturel et universel pour les plaisirs interdits prend sa source dans le soin impérieux. Il agit souvent, dans un premier temps en tout cas, par le biais d'attaques pulsionnelles frontales, mais là on le voit très clairement, on n'a pas du tout l'impression qu'il est mort, mais si on lui résiste, il utilise la ruse, la duperie, il fait le mort et puis il réapparaît sous une autre forme. Et surtout, il s'infiltre dans la raison pour qu'elle légitime ses suggestions. Les désirs de ce soi impérieux prennent souvent la forme de tentations délicieuses et de suggestions très séduisantes pour l'ego. Mais en tout cas, toutes ces suggestions, en réalité, fonctionnent comme un véritable poison pour l'âme si nous y obéissons. Mais revenons à notre dragon du récit. En fait, ce que nous dit ce récit, c'est tant que le soin impérieux est loin de toute sollicitation, de toute tentation de la vie sociale, lorsqu'il est loin en réalité du soleil des passions, il est comme congelé et on peut le croire neutralisé, voire mort. On peut même carrément croire qu'il est mort. Alors ça, c'est la métaphore de la montagne, de la neige et du gel qui nous le disent. Donc vous voyez, quand il est isolé, perdu, qu'il fait très très froid et donc qu'il n'a aucun moyen de s'exprimer, il a l'air d'être tout à fait hors service, si je puis dire. Cette métaphore peut servir pour illustrer en fait le retrait du monde tel qu'il a été en général prôné par tout un pan de la spiritualité traditionnelle. C'est-à-dire quand on se retire dans la montagne, dans un endroit où il n'y a absolument aucune sollicitation de cette chaleur des passions, eh bien, on congèle son soi impérieux. Donc l'ascèse absolue, en fait, qui repose sur le retrait du monde, est une sorte de refuge dans la montagne où rien ne viendra solliciter le soi impérieux, où on pourra dire qu'aucune tentation ne viendra le titiller. Donc, il se tiendra, du moins en apparence, tout à fait tranquille. Et il ne montrera donc pas son vrai visage. À ce moment-là, il semble très facile de l'attraper, de l'attacher, de le traîner, voire de le montrer à autrui comme un monstre qu'on aurait vaincu. Donc c'est ça que nous dit l'histoire. C'est-à-dire, il n'a eu aucun mal à le vaincre, à l'attraper, ce dragon, puisqu'il avait l'air d'être mort. Mais devant les autres, il frime un peu. Il dit « Oui, voyez le monstre que j'ai attrapé, etc. » Et surtout, il montre à la foule qu'il a rapporté de la montagne quelque chose de tout à fait impressionnant. Et c'est tout à fait caractéristique de l'orgueil de celui qui croit avoir vaincu son soin impérieux par des pratiques justement ascétiques, mais qui en réalité n'a fait que l'endormir. Rumi nous dit clairement qu'il fait une grave erreur de jugement, le chasseur de serpents, puisqu'il le traite de mouton aveugle et d'imbécile. Et on voit, non seulement il veut frimer, non seulement il prétend qu'il a chassé avec beaucoup de difficulté un dragon qu'il n'a quand même pas eu tant de mal à attraper, il a juste eu un petit peu de mal à le traîner, mais en plus, il l'a fait pour gagner de l'argent. Donc en fait, toutes les sollicitations, voyez, de pouvoir, d'orgueil, d'image de soi et d'ego sont en jeu, au fond, dans cette action qu'il mène. Ainsi donc, loin de la société, loin des tentations, on peut croire qu'on a tué son soi impérieux, mais en réalité, il n'en est rien. Ostad Elahi lui-même dira à propos de cette présence du soi impérieux dans l'être humain durant toute sa vie en réalité, il dira « Tant qu'il est vivant, l'être humain doit être vigilant et se méfier de son soi impérieux, car tant qu'il n'est pas arrivé à la perfection, il court un risque. » Donc ça explique bien ce que nous dit Rumi, le dragon est en soi impérieux, comment serait-il mort? Ça se saurait s'il pouvait mourir pendant le temps de notre vie terrestre. Il n'est que gelé par le chagrin et l'absence de moyens. Ça veut dire l'absence de sollicitation qui lui permettrait de montrer à quel point il est vivant. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, c'est dans les sollicitations que ce soin impérieux révèle son vrai visage, celui d'un monstre qui ne fait qu'une bouchée de celui qui ne sait pas le maîtriser. D'un monstre qui est un dragon rugissant comme un lion. Si on ne lutte pas réellement, frontalement, contre le soin impérieux, sans une maîtrise réelle qui serait le fruit de ce combat frontal, il suffirait de le ramener quelques heures au soleil des passions pour que, à nouveau, il prenne vie. En réalité, il s'agit de toutes les sollicitations qui, d'une manière ou d'une autre, satisfont l'ego et donc redonnent vie à toutes ces pulsions qui semblaient un peu éteintes quand on ne les avait pas vraiment confrontées. Rumi met donc en garde son lecteur contre le potentiel de violence et de mort qui dort dans chaque être sous la forme d'un dragon dangereux. Quand il parle de mort, il s'agit évidemment de la mort de l'âme. Ce qu'il nous suggère par là, c'est que si on se laisse duper et envahir par le soin impérieux, alors ce qui peut s'en suivre, c'est carrément la mort de l'âme. C'est pour ça qu'il utilise un vocabulaire guerrier pour évoquer le combat qu'il convient de mener de front avec ce puissant monstre intérieur. Mais malgré cette lucidité du grand mystique devant la réalité du soin impérieux, malgré sa lucidité devant le danger qu'il représente, qui montre que Rumi lui-même avait une bonne connaissance de ces potentiels en fait, de danger qui sont dans chaque être humain, Rumi reste dans ce qu'on pourrait appeler la droite ligne de la spiritualité traditionnelle. Parce qu'il nous dit, après nous avoir bien illustré l'idée que quand le dragon est loin, il est endormi, etc., il nous dit « Garde le dragon dans la neige de la séparation, prends garde, ne l'apporte pas au soleil de l'Irak afin qu'il soit bridé. » Nous sommes au XIIIe siècle, donc c'est tout à fait naturel qu'il reste, au fond, dans cette vision de la spiritualité traditionnelle qui consiste à dire qu'il faut, en fait, mettre le soin impérieux au congélateur. Parce que c'est le meilleur moyen pour ne pas qu'il se réveille, en fait. Pourtant, on sait de sa biographie qu'en tant que maître spirituel, il n'a jamais dit à ses élèves, par exemple, de se retirer du monde ou de vivre loin des hommes ou de leurs préoccupations. Loin de là. Ses disciples, en fait, vivaient toujours dans la société. Mais, il disait, le moyen de combattre, c'est justement de se mettre dans un état de retrait complet. Ça veut dire pratiquer l'ascèse, même dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire être en jeûne perpétuel, être en méditation perpétuelle, veiller les nuits en priant, faire vœu de chasteté, si faire se peut. Donc quand même, il prônait une méthode de lutte contre le soin impérieux qui est une méthode qui coupe en réalité le soin impérieux de sollicitations qui pourraient éventuellement le mettre en éveil. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut le mettre échec et mat. Il faut être sans pitié. Il faut le tuer, le soin impérieux. Et il ne dit pas qu'il faut en réalité arriver à une autre forme de lutte dont je vais vous parler et qui est par contre tout à fait développée par Ostadelaï dans sa pensée.